Alors, devoir de Julie Bouguillon. Alors, Julie, ce n'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Hein, donc, tu es aussi bien du point de vue contenu que méthode, tu es à côté. Hein. Alors, contenu, non, là j'exagère parce que tu es hors sujet. Hein, mais en ce qui concerne l'acquisition de connaissances, c'est sérieux. Hein, donc, quand même. Hein, donc, mais c'est pas du tout. C'est-à-dire que tu tombes dans tous les défauts que peut réserver une étude de documents. Hein, donc, la paraphrase, soit leur sujet. Et puis en plus, donc la partie critique, hein, donc tu ne parviens pas du tout à l'appréhender. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu regardes ton devoir, alors l'intro, ça va à peu près, à part que la contextualisation est un peu vague. Mais, donc regarde toute la deuxième page, hein, donc j'ouvre ta copie. Tu vois, j'ai mis hors sujet, puis deux fois document, document. Tout ça voilà, c'est complètement à côté parce que j'attends que tu t'empares des documents. Donc je passe à la deuxième page, ben, je continue, document, non. Et puis tu vois, le début de la deuxième partie, je mets enfin. Enfin, pourquoi? Parce que tu parles de Kennedy, donc visiblement on peut parler du document 1, hein, puis après, ben, tu repars, hein, sur du hors sujet. Donc je tourne la page. Et je trouve de la paraphrase. Hein, donc, la seule fois véritablement où tu t'empares du document, c'est le dernier paragraphe, quand tu dis, tu vois, j'ai une petite croix, le visage de Kennedy lors de son discours montre la gravité de la situation et le sérieux avec lequel il regarde les caméras. Voilà. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à analyser, hein, et dire, ben oui, il s'adresse donc à des millions donc d'Américains qui sont rivés à leur poste de télévision. Il s'adresse par-delà les Américains donc au monde entier. Et pour lui, je suis dans l'analyse, eh bien, il s'agit de donner aussi des preuves donc de sa capacité à rentrer dans le bras de fer que Khrouchtchev lui impose. Ce bras de fer, évidemment, eh bien, consiste dans les fusées, les missiles qui ont été donc installés à Cuba et qui sont au cœur de la crise. Et ce bras de fer est d'autant plus important pour lui qu'on l'attend au tournant, tout le monde l'attend au tournant, dans la mesure où l'année précédente, dans la baie des Cochons, en 61, eh bien, l'échec de l'intervention et de l'invasion des anticastristes montre qu'il s'était fourvoyé du point de vue de la politique extérieure. On était au début de son mandat et il pensait pouvoir commanditer, hein, donc, cette intervention. Donc là, on l'attend, puisqu'il y a une deuxième provocation, c'est encore une, pardon, il y a une provocation de la part de Khrouchtchev, et donc le bras de fer est engagé. Tu vois? Et donc ça, tu ne le vois pas du tout. Alors, si tu veux, on reprend. Si tu veux bien, hein, on reprend quand même rapidement. Ici, ça va. Hein, donc, sur la, voilà, à part que j'aurais dit simplement qu'on est dans une période, la période difficile de la guerre froide, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de crises. Et puis que l'année auparavant, il y a eu la construction du mur de Berlin. Donc le climat est tendu. Hein, donc, Khrouchtchev s'énerve pas mal autour de Berlin. J'aurais pas mis, toi, j'ai mis entre crochets, elle se déroule de. C'est pas la peine de rappeler ça. Hein. Et puis nous verrons comment la crise de Cuba illustre les tensions. Oui, bon, elle ne fait pas que ça. T'es pas obligé d'annoncer ton plan, mais bon. Alors après, ben, tu pars sur un premier paragraphe où tu parles donc de la guerre froide et tu dis expansionnisme. Je ne suis pas du tout d'accord. Expansionnisme, c'est territorial. Par contre, après, tu parles de sphère d'influence qui convient largement davantage. Hein, j'ai mis oui. Donc, mais c'est pas, tu n'as pas à m'expliquer la guerre froide et dire quelles sont les zones que les uns et les autres contrôlent. D'accord? Tu commences directement par les documents. Deuxième paragraphe, ben, on s'éloigne encore plus du sujet, puisque tu rappelles donc les guerres, hein, donc la Corée, l'Indochine, le Vietnam. Donc, mais non, je ne suis pas d'accord. Hein. Alors, sur la guerre du Vietnam, je suis d'accord, 55-75, effectivement, surtout pour les Vietnamiens. De l'extérieur, si tu veux, bon, souvent les Occidentaux, puis bon. Enfin, les Américains, les Européens distinguent la guerre d'Indochine, puis la guerre du Vietnam, qui commencerait essentiellement à partir de 64. Alors, je suis juste 65. Bon. Alors après, tu fais une toute petite transition pour nous montrer Cuba. Alors, je me dis, ah ça y est, on va y arriver quand même, il est temps. Et puis tu la situes mal, c'est à quelques centaines de kilomètres de la côte. Hein. Et puis là, tu nous racontes ben voilà, le problème de ce régime communiste. Mais non, part de la lettre de Khrouchtchev. Pourquoi est-ce que Khrouchtchev écrit à Castro? Parce qu'ils entretiennent des relations proches, et donc on voit bien au ton de la lettre. Et donc ici, on parle d'une crise, et donc là, bah, là tu peux dire, mais effectivement, donc 15 jours auparavant, des avions espions, dont il est question quand même dans ce document, hein, donc ont remarqué qu'il y avait des drôles d'infrastructures sur, voilà. Et donc, sur l'île, ce qui correspond à des rampes de lancement. Ces rampes de lancement étaient prises en photo, présentées à l'ONU, hein, donc, et deux, trois jours après donc, le discours de JFK. Là, donc, et l'URSS nie. Hein, donc, il faut après que tu partes sur le discours de JFK pour nous dire ce qu'il annonce. Alors, il annonce une menace nucléaire, effectivement, je crois que tu l'as dit à un moment, mais il organise aussi un blocus. Hein. Toi, tu dis, par la suite, les Américains envoient leur flotte militaire. Non, il annonce, là, ce jour-là, hein, une quarantaine, un blocus, une flotte militaire. La flotte, hein, ça suffit. Évidemment, armée, ben oui, hein, autour de Cuba. Toi, tu n'as pas le vocabulaire, là. De plus, ils positionnent des missiles nucléaires dans leur zone d'influence. Ben, pas du tout. Dans des pays frontaliers au rideau de fer. C'est déjà fait. Ce que fait en retour, c'est déjà fait depuis donc l'OTAN et le pacte de Varsovie. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu reviens là-dessus. On passe à une deuxième partie, je me dis, ah, enfin, le discours, bon, je vais analyser ce que je viens de te dire, là, et puis non, t'es reparti sur l'OTAN, donc Hiroshima, voilà, tu parles d'autorités internationales qui sont persuadées, mais c'est quoi ces autorités internationales? Moi, je pense que c'est l'ONU, et donc, regarde à quel point elle est absente, quand même, de cette crise, sauf en tant que théâtre d'exposition, hein, donc des rampes de lancement, puisqu'il y a une séance fameuse à l'ONU, le 25 octobre, alors t'es pas obligé de savoir exactement quand, mais c'est au mois d'octobre, hein, où donc, l'ambassadeur américain à l'ONU exhibe les preuves, et l'ambassadeur soviétique refuse de les regarder, hein, en disant qu'il n'est pas au tribunal. Bon. Voilà, alors on est là dans un moment tendu. Alors si je t'ai donné un document 1 qui est donc d'émanation donc américaine, hein, regarde ici le document, si je te vois, je te donne le document 2 qui est d'émanation soviétique, c'est pour te montrer aussi qu'ils discutent. Et donc le document 2 fait de nombreuses allusions à une négociation. Donc il aurait fallu, dans un deuxième temps, après avoir montré la crise, à partir des documents, nous montrer les négociations. Et les négociations se font entre les deux, hein, absolument pas avec l'ONU, encore moins avec Castro. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'ils obtiennent? Et là, c'était que tu vas chercher dans tes connaissances, et on le voit ici dans le document, hein, donc les États-Unis n'envahiront pas Cuba, lignes 4 et 5. Avec leurs propres forces. Donc, c'est ça ce que craignait Castro. Donc, tu nous montres les termes de l'échange, puis tu sais autre chose. Tu sais que, eh bien, Khrouchtchev ordonne à ses navires de faire demi-tour pour pas donc franchir le blocus, et que l'accord secret prévoit aussi le retrait de fusées de l'OTAN en Turquie. Voilà. Bon, bah, j'ai rien là. Voilà. Mais le 27 octobre 1962, je prends la fin de ta page, la menace d'une troisième guerre mondiale s'estompe et va se régler à l'avantage pour Cuba. Alors non seulement tu ne me dis pas comment cette troisième guerre mondiale a pu s'estomper, donc des négociations, mais tu te trompes complètement en disant que c'est à l'avantage de Cuba. C'est pas parce que Khrouchtchev le dit que c'est vrai. Et là, tu n'as absolument pas vu la condescendance, la menace aussi voilée, hein, qu'il y a dans la lettre de Khrouchtchev à Castro. Et tu n'as pas vu pourquoi. Hein. Tu dis la menace d'une troisième guerre mondiale ne disparaîtra pas complètement. Pourquoi? Puisque dans la lettre du dirigeant de l'URSS, il conseille à Castro de ne pas se laisser emporter par ses émotions. Mais de quoi s'agit-il? Et il y a eu, hein, donc ici, un avion espion U-2 qui a survolé Cuba et qui a été abattu. Hein. Regarde la ligne donc 13. Hier, vous avez abattu un de ces appareils. Donc ça veut dire qu'en plein dans les négociations, alors qu'ils sont parvenus à un accord, Castro provoque, hein, et donc fait preuve donc de fierté nationale et abat un avion américain sans en avoir demandé l'autorisation à son protecteur soviétique. Et donc Khrouchtchev lui dit attention, attention, regarde donc à la ligne 4. À la ligne 9. Je vous recommande à ce stade d'évolution de la crise de ne pas vous laisser emporter par vos émotions. Tu l'avais bien vu, mais tu l'as pas compris. C'est pourquoi j'aimerais vous conseiller de façon amicale de faire preuve de patience, de fermeté, encore plus de fermeté, dit-il à la ligne 15 et 16, etc. etc. Et donc, Il lui dit de se calmer, de ne pas perdre ses nerfs, sinon il va faire tout capoter. Hein. Et donc, et il essaye de le persuader que c'est à son avantage, que ça, parce que qu'est-ce qu'il a obtenu ? La conviction qu'il ne sera pas envahi par les États-Unis. Mais oui, mais Castro, qu'est-ce qu'il voit, lui ? C'est qu'il a plus de fusée pour, soviétique pour le protéger. Et il a bien raison. Hein. Et donc, il sent bien que c'est lui le dindon de la farce. Donc la crise de Cuba se détend au fur et à mesure, mais reste un sujet tendu par les pour les Américains. Cette crise, voilà, bon, tout ça, c'est... Alors, tu vois, c'est dommage, parce que la seule fois où finalement t'es allé un petit peu plus loin, oui, c'est une deuxième attaque sur le territoire, voilà pourquoi la menace a été prise tellement au sérieux, hein, par tout voilà, c'est important. Hein, donc, alors, pour l'URSS, tu finis là-dessus, attaquer les États-Unis signifierait prendre le dessus. Mais il s'agit... Quels sont les buts de l'URSS ? C'est absolument pas ça. Et l'URSS, c'est bien qu'elle est incapable d'attaquer les États-Unis et puis de l'anéantir. Et puis, de toute façon, c'est une guerre froide. Donc, ils savent très bien qu'en retour, eh bien, ça déclencherait le feu nucléaire. Donc, dominer le monde, mais c'est pas leur but. Qu'ils se retrouvent divisés en deux parties. Donc, ici, tu te trompes complètement, là. Et donc, bon, la conclusion, non, tu parles d'expansionnisme et de rivalité territoriale, alors qu'il s'agit donc de lutte d'influence idéologique. Et là, tu te trompes. Hein. Pourtant, tu avais parlé de faire l'influence au début. Donc, si je fais le bilan, tu connais des choses, Julie, mais tu ne maîtrises pas encore. Je crois que tu n'as pas compris l'esprit, hein, donc, de cette épreuve, étude de documents. Bon, moi, je trouve ça assez décevant. Donc je te mets 8, hein, donc ici, et bon, je comprends pas comment finalement j'espère, je, parce que on va voir ici aussi, on fait des études de documents donc au lycée, hein, en SP, hein, donc je comprends pas comment tu multiplies les exercices et comment tu peux donc te tenir aussi éloigné des documents pour ce galop-là.